Et les matins débutent avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Une mesure choc aux États-Unis et un terrible constat. La police de Minneapolis va être démantelée 2 semaines après la mort de George Floyd. Une police démantelée car elle n'est pas réformable en l'état. Aveu d'échec alors que débutent aujourd'hui les obsèques de George Floyd à Houston, sa ville natale. Nous serons sur place dans ce journal.
Et puis des rassemblements partout dans le monde contre les violences policières ce week-end. En France, comment l'exécutif réagit-il à ce mouvement mondial ?
L'opposition de gauche presse Emmanuel Macron de prendre la parole. La droite aussi, mais pour faire corps avec la police. L'Élysée fait savoir que le président s'active en coulisses. Explication dans un instant. Et puis à l'occasion de la journée mondiale de l'océan, les scientifiques et les défenseurs de l'environnement se mobilisent une nouvelle fois pour dénoncer la pollution plastique dans les mers.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, on va vous raconter une histoire incroyable. Si cette usine s'arrêtait, le monde s'arrêterait. Eh bien, elle est au cœur du contentieux commercial sino-américain. Elle fabrique des microprocesseurs et elle s'appelle TSMC. On en parle en compagnie de Michel Fouquin, économiste et conseiller scientifique au CEPI.
Minneapolis veut un nouveau modèle de sécurité publique qui assure vraiment la sûreté de sa population. Et c'est pour cela que le conseil municipal de cette ville des États-Unis décide donc de démanteler ses équipes actuelles 2 semaines après la mort de George Floyd, cet homme noir de 46 ans interpellé et asphyxié par un policier blanc. Ce dernier, Derek Chauvin, doit comparaître aujourd'hui pour la première fois devant la justice. Il est inculpé de meurtre. Les obsèques de George Floyd débuteront par ailleurs aujourd'hui à Houston, sa ville natale au Texas. La population pourra venir se recueillir devant la dépouille. Le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, fera le déplacement. Il rencontrera la famille de George Floyd avant une cérémonie privée organisée demain. Grégory Phillips, l'envoyé spécial de France Culture à Houston, a pu rencontrer la famille de George Floyd et notamment son oncle paternel, Roger Floyd.
Il était le fils de mon frère, c'est cela. J'étais là quand il est né. Il y a 46 ans. Roger Floyd est arrivé hier soir à Houston, Texas, avec une dizaine d'autres membres de sa famille. Je vois aujourd'hui mon neveu, explique-t-il, comme quelqu'un qui, par la volonté de Dieu, s'est sacrifié afin qu'un changement puisse intervenir. Nous devons obtenir ce changement. Nous n'avons pas le choix, parce que sinon, on aura le même drame la semaine prochaine, le mois prochain, dans un an, et on devra recommencer toute cette discussion. And we'll have this
conversation all over again. L'oncle paternel de George Floyd dit aussi que les manifestations qu'il a vues aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde lui donnent de l'espoir. Tout à l'heure, Roger Floyd rencontrera Joe Biden, l'ex-vice-président et candidat démocrate à la Maison-Blanche, qui viendra présenter ses condoléances à la famille.
There is systemic racism.
Il y a un racisme systémique dans ce pays, constate Floyd. Et je peux vous en parler, je l'ai expérimenté. Donc Joe Biden, on va tenter de voir ce qu'il veut vraiment faire. Il faut que les hommes politiques traduisent leurs propos en action, en loi. Sinon, des policiers corrompus et criminels s'en sortiront toujours, même après un meurtre comme celui de mon neveu. En quelques jours, Roger Floyd, l'agent d'assurance de Caroline du Nord, se retrouve en première ligne dans le combat pour l'égalité et contre les violences policières. Il le fait, dit-il, porté par sa foi et par le souvenir de son neveu.
Grégory Phillips, envoyé spécial de France Culture à Houston, aux États-Unis. 8 minutes 46 secondes, le temps qu'a duré l'agonie de George Floyd. 8 minutes 46 secondes de silence, c'est ce que Dominique Sopo, le président d'SOS Racisme, invite à observer demain soir lors d'un rassemblement place de la République à Paris. Alors que des milliers de personnes ont manifesté ce week-end pour dénoncer le racisme et les violences policières de Paris à Budapest, en passant par Bristol, Madrid et Rome, Dominique Sopo appelle le Premier ministre et le chef de l'État français à prendre la parole et à dire comment il compte, je cite, « régler ses problèmes dans la police ». Angela Merkel ou encore Justin Trudeau font partie des nombreux dirigeants à avoir exprimé leur indignation devant certaines dérives racistes dans la police. Et en France, comment l'exécutif réagit-il à ce mouvement mondial ? Difficile de le savoir tant la prudence et le silence sont de mise. Hier, l'opposition de gauche, par la voix de Jean-Luc Mélenchon mais aussi de l'écologiste Julien Bayou, a pressé Emmanuel Macron de s'exprimer enfin, à droite également, mais pour exiger de faire corps avec la police. Il n'y a pas de violence policière, cela n'existe pas, a dit le patron des Républicains, Christian Jacob. L'exécutif pressé de réagir, mais c'est en train de bouger, Yael Gauze.
Jusqu'à vendredi, l'Élysée renvoyait le sujet au ministère compétent, Intérieur et Justice, parce que le président ne peut pas réagir sur tout et tout le temps, disaient ses conseillers pour tenter de justifier ce long silence. Ce week-end, même pas un tweet sur une mobilisation pourtant planétaire. Étonnant contraste avec d'autres dirigeants comme le Canadien Justin Trudeau, qui lui manifestait samedi genou à terre. Alors pourquoi cette distanciation? À l'Élysée, on explique au contraire que le président a échangé tout le week-end avec des élus, acteurs de terrain, qu'il a même téléphoné à des signataires de Réveillons-nous, la pétition lancée par Omar Sy. Et puis le président donne instruction à Édouard Philippe d'agir dès cette semaine, peut-être un déplacement sans plus de détails. Coup de pression aussi sur Christophe Castaner pour que remontent au plus vite ses propositions pour plus de déontologie dans la police, chantier lancé en janvier. L'exécutif marche sur des œufs. Dénoncer le racisme dans la police, oui, mais sans ouvrir un front avec les forces de l'ordre, soutenues à 100% à droite et au RN, car sous la crise sanitaire couvre déjà la crise sociale et avec elle le risque de nouvelles mobilisations dans la rue.
7h06 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutulle. La pandémie de coronavirus a dépassé hier le seuil des 400 000 morts.
Continuant de progresser de manière fulgurante dans les pays d'Amérique latine, au Brésil, troisième pays le plus endeuillé au monde, avec plus de 35 000 morts derrière les États-Unis et le Royaume-Uni, le gouverneur de Rio de Janeiro a annoncé tout de même l'assouplissement des mesures de confinement. Au Pérou, deuxième pays d'Amérique latine le plus touché, le système hospitalier est au bord de l'effondrement, notamment à cause du manque d'oxygène. Ça n'a pas empêché l'annonce de la réouverture du site Inca du Machu Picchu pour le 1er juillet. En France, l'épidémie est désormais contrôlée selon les autorités sanitaires. 13 morts ont été recensés dans les hôpitaux français hier, soit le bilan le plus faible depuis la mi-mars. Faut-il accélérer le déconfinement et avancer le début de la troisième phase prévue pour le moment au 22 juin prochain? Vaste dilemme pour le gouvernement, mais Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique, a opposé à l'origine à la réouverture des écoles, s'est prononcé hier en faveur d'un assouplissement du protocole sanitaire à l'école. Et pour construire, co-construire même l'après-crise, Emmanuel Macron entame une nouvelle semaine de consultations pour lancer, semble-t-il, une nouvelle phase de son quinquennat avant le 14 juillet. Cette nouvelle ère pourrait passer par un remaniement, mais au sein de La République En Marche, plusieurs voix s'élèvent pour aller au-delà d'un changement d'équipe gouvernementale. Certains réclament une refondation du parti, Rosalie Lafarge.
Trois ans après, on n'a toujours pas de colonne vertébrale. Le constat est dressé par un député remonté, décidé pour l'instant à rester dans le groupe et dans le mouvement, mais à certaines conditions, et notamment un remaniement en interne. Guérini est un gentil. En politique, il ne faut pas être gentil, tranche ce marcheur pas tendre avec le numéro 1 du parti. Et il n'est pas le seul. Chez les historiques aussi, on se dit que le temps du changement est sans doute venu. Il faut faire de la place au débat en interne et enfin sortir du statu quo, sinon on va se rétrécir petit à petit en laissant la droite et la gauche se réinventer, analyse un autre parlementaire. On a besoin d'un gros travail d'introspection, on doit repenser un projet pour 2022, souligne encore un encarté, parce que c'est bien l'objectif des marcheurs, en tout cas d'une large partie d'entre eux, continuer à porter Emmanuel Macron et assurer sa réélection à la prochaine présidentielle. Mais pour ça, il faut renverser la table, glisse un fidèle du président de la République. Qu'est-ce que la Macronie aujourd'hui? Personne ne le sait, dit-il. Les municipales s'annoncent catastrophiques, le en même temps, on ne sait plus le définir, on n'a pas de stratégie. Au Parlement, ça part dans tous les sens. Il faut relancer la machine. Et pour beaucoup parmi l'aile gauche du mouvement, la relance de la machine passe par un changement de cadre au sein du parti, comme du groupe à l'Assemblée, comme du gouvernement.
Les ministres des Affaires étrangères français et belges ont lancé hier à Bruxelles un pont aérien humanitaire organisé par les 27 vers la République démocratique du Congo, et ce pour soutenir la lutte contre le coronavirus à Kinshasa. L'Union européenne veut prouver que la pandémie ne l'a pas égoïstement refermée sur elle-même, Pierre Benazé.
Dans l'avion qui a décollé de Bruxelles se trouvent non seulement des tonnes de matériel médical ou sanitaire, mais aussi des personnels des ONG pour qui ce pont aérien humanitaire est vital. Manuel Patrouillard, directeur général de Handicap International.
Il faut absolument déconfiner l'aide humanitaire. Si nous ne pouvons pas accéder à nos programmes dans les différents pays, si nous ne pouvons pas avoir des avions qui amènent du fret et qui amènent nos collaborateurs sur place, nous ne pourrions plus travailler.
À bord de l'avion humanitaire européen voyagent aussi les ministres des Affaires étrangères de la Belgique et de la France, particulièrement actives en République démocratique du Congo. Jean-Yves Le Drian.
Ce qui me frappe, c'est la manière dont les autorités ont pu créer la confiance dans la culture de riposte. Alors sans doute y a-t-il malheureusement une habitude, mais en tout cas il y a eu une très forte réactivité. C'est sans doute pour cette raison que le Covid est jugulé. Et il faut maintenant faire en sorte que l'environnement sanitaire puisse permettre la poursuite de cette maîtrise.
Et les ONG soulignent que le coronavirus ne doit pas faire oublier les épidémies de rougeole ou d'Ebola, ou encore les pénuries alimentaires.
Pierre Benazet à Bruxelles pour France Culture. À l'occasion de la Journée mondiale de l'océan, les scientifiques et les défenseurs de l'environnement se mobilisent une nouvelle fois pour dénoncer la pollution plastique dans les mers. C'est l'une des pollutions majeures qui touche désormais les océans, avec 8 millions de tonnes de plastique qui finissent chaque année dans la mer. Cette pollution pourrait doubler d'ici 2030, alerte le WWF. Témoin direct de cette dégradation des océans, le skipper Fabrice Amedeo. Il s'élancera en novembre prochain pour le Vendée Globe sur un bateau équipé d'un capteur permettant de mesurer la présence des microplastiques dans des zones peu fréquentées et difficiles d'accès. Des données transmises ensuite aux chercheurs. Fabrice Amedeo, joint à Lorient où il installe en ce moment son capteur, par Véronique Rebérotte.
Finalement, cette pollution plastique, elle est assez insidieuse parce qu'elle est en majorité invisible. Et moi, pendant des années, j'ai eu l'impression de quitter la Terre, où là, il y a des macro-déchets sur les plages, on voit beaucoup de choses, pour partir loin au large, sur des étendues immaculées, loin de la pollution des hommes. Quand on est au large, finalement, on voit assez peu de pollution, et donc c'est assez trompeur.
C'est vrai que ces microplastiques, ils sont invisibles, mais vraiment, vous lancez un module pour mesurer la présence de ces microplastiques dans l'océan.
Tout à fait. Alors mon bateau, il est équipé d'un capteur océanographique qui fait des mesures de CO2, salinité, température en surface depuis l'année dernière. Et là, on rajoute ces jours-ci un module microplastique qui va me permettre de mesurer pendant tout le tour du monde, donc pendant tout le Vendée Globe, la présence de microplastiques dans les océans. L'idée, c'est de pouvoir repérer cette pollution, la quantifier et aussi qualifier la provenance de ces microplastiques. Et donc, il y a toute une communauté scientifique qui est partenaire du projet, comme l'IFREMER, par exemple, pour la France. Des scientifiques qui réceptionnent les data et qui vont pouvoir ensuite les utiliser pour leurs travaux.
Quand vous dites repérer leur provenance, ça veut dire quoi ?
Pouvoir qualifier, par exemple, si un microplastique est issu de tel ou tel secteur industriel, l'automobile ou par exemple les cosmétiques. On va repérer les pollueurs et pouvoir éventuellement ensuite intervenir et enrayer ce fléau qui vient de la Terre.
Le skipper Fabrice Amedeo, il répondait à Véronique Rebérotte. Le temps de ce lundi 8 juin, partagé entre nuages, éclaircies et averses, les températures sont assez fraîches, comprises ce matin entre 6 et 12 degrés en général, jusqu'à 16 près de la Méditerranée. Au meilleur de la journée, il fera entre 17 et 21 degrés du nord au sud, jusqu'à 25 en Corse.